Père Vincent, vous avez le droit d'aller plus directement au cœur du sujet, mais
je suis
pas tout le monde.
Merci beaucoup, c'est un privilège d'être là et puis d'entendre un rabbin et puis un imam. Je crois qu'on va voir certaines choses qui vont converger, d'autres peut-être qui vont diverger. Je commencerai par le même verset que vous. Dans la Bible, l'homme est présenté non pas comme un individu, mais comme un être de relation. Au tout premier chapitre de la Genèse, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc bien, l'homme est une créature de Dieu, mais c'est comme couple. Et donc, à travers sa relation à l'autre, que l'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Genèse 1, 27. Dans le second récit de la création, qui est de rédaction plus ancienne, après un face-à-face avec le Créateur, Adam reçoit de Dieu le souffle de vie, ceci signifiant que l'homme ne va pas vivre seulement de l'ordre biologique, mais de la vie même de Dieu. Et curieusement, dans ce récit, Ève vient un peu plus tard, parfois les femmes sont en retard, mais là il ne s'agit pas de ça, Ève ne vient qu'après. Et ce retard offre à Adam de crier sa gratitude au Seigneur, à Dieu. Enfin, celle-ci, l'os de mon os, chair de ma chair. Alors la Bible va donner au mot chair le sens de corps, bien sûr, mais aussi un sens beaucoup plus large, celui de parenté et de relation. Et désormais, et vous l'avez dit, les deux, hommes et femmes, ne sont pas simplement invités à s'unir physiquement, mais à se compléter l'un l'autre, voire même, et mieux, à se révéler l'un à l'autre. Et la famille va permettre aux époux, justement cela, de faire rayonner cet amour charnel, ô combien charnel, accueillir les enfants, avoir des relations sexuelles, accueillir les enfants, vivre tous ensemble et participer à la vie sociale. Autrement dit, c'est la famille qui donne sa vocation sociale à l'amour. L'amour ne consiste pas à se regarder dans les blancs des yeux toute sa vie, il a une vocation sociale et c'est la famille qui le remplit. Et donc dans le christianisme, le lien matrimonial et familial est un lieu pour l'homme privilégié pour vivre sa foi. Le lien matrimonial, le lien familial est un lieu théologique, un lieu pour vivre sa foi. C'est ainsi un lieu de sanctification. C'est peut-être un lieu de plaisir, mais il n'y a pas de plaisir sans la responsabilité, répondre par une bénédiction de ce don qui est à Dieu et qui se fait comme être de relation. Alors, pour les chrétiens, parler de la famille, vous l'avez évoqué aussi spontanément, parler de la famille, c'est à la limite obligatoirement parler de mariage. Or, le problème, c'est que le seul mariage valide entre deux baptisés dans le droit de l'Église, c'est un mariage sacramentel. Celui-ci doit être célébré devant un ministre ordonné, prêtre ou diacre, chargé de recueillir le consentement des époux. Cette règle a été mise en place au XVIe siècle pour éviter les mariages clandestins, il y en avait beaucoup à l'époque, les mariages forcés et aussi les mariages successifs, parce que mine de rien on enregistre les unions et il ne s'agit pas d'aller demander dans un diocèse d'à côté un mariage qu'on a déjà contracté ailleurs. Ce mariage, il est monogame, il est indissoluble et il est hétérosexuel. Il y a de mariages valides dans l'Église catholique qu'un mariage sacramentel, canoniquement célébré, et c'est un mariage monogame, indissoluble et hétérosexuel. Il implique une communauté de vie entre un homme et une femme pour toute la vie. Une communauté de vie pour toute la vie. Il se fonde sur une parole de Jésus, « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Il y a aussi un ordre à respecter dans ce mariage, c'est le mariage qui fait la famille, et non pas la famille ou les enfants déjà là qui font le mariage. Là, forcément, on est en contradiction avec un bon nombre de pratiques sociales d'aujourd'hui. Ceci étant, ce mariage est aussi considéré, on va dire, comme un droit naturel. Donc, a priori, à une demande de célébration de mariage religieux, sauf empêchement canonique, manque de liberté, de maturité, impuissance sexuelle, union antérieure, avoir reçu les ordres sacrés, a priori, à une demande de mariage religieux, la réponse est oui, toujours oui. Car il est, on l'a dit, dans la nature de l'homme de vouloir se marier et de vouloir fonder une famille. C'est dans la nature de l'homme. Et donc le christianisme, la religion, là, n'a pas à intervenir, la réponse c'est oui. Les pasteurs se réjouiront de régulariser une situation matrimoniale et de célébrer le mariage, quitte à célébrer en même temps le baptême de la petite dernière. Ça ne pose pas de problème, c'est un droit naturel. Le mariage considéré comme un droit naturel, c'est-à-dire un droit d'avant toute législation, religieuse ou civile, signifie qu'un mariage contracté entre un homme et une femme non baptisés sera considéré comme valide. Il y a un tel respect du mariage dans le christianisme qu'un mariage contracté par de non-baptisés, un mariage civil, sera considéré comme valide, certes non sacramentel d'un point de vue canonique, mais valide. Et ce respect du mariage va poser problème, parce que vous avez parfois des personnes qui vont se rapprocher de l'Église ou du christianisme, qui vont considérer qu'ils n'ont pas été mariés parce que c'était dans une autre religion ou sans religion le plus souvent, et qui découvrent au moment de leur rapprochement de l'Église que l'Église ne peut pas les marier, en tout cas l'Église catholique. Les églises chrétiennes admettent toute la possibilité de l'échec du mariage et tout autorise le divorce, mais c'est bien sûr le second mariage qui va poser problème. Dans l'Église catholique, on admet la séparation des corps, mais pas un second mariage. Et les divorcés remariés n'ont en principe, c'est en train de changer, mais en principe plus accès ni à l'Eucharistie, ni au sacrement de la réconciliation, la confession. L'idée c'est que Dieu étant impliqué directement dans le sacrement, hein, c'est pas un mariage à deux, c'est un mariage à trois, Dieu est impliqué dans le sacrement, comment délier ce que Dieu a lui-même uni et délier les époux de leur consentement. C'est le problème théologique. Dans les églises protestantes, le mariage n'est pas un sacrement. On retrouve donc plus facilement une solution pour bénir un second mariage, mais ça n'est pas possible ou facile dans toutes les dénominations. Il y a bien des différences. Dans l'église orthodoxe, le second mariage est possible, notamment pour le conjoint abandonné ou lésé, mais il est beaucoup moins festif dans sa célébration. On va accentuer le côté pénitentiel, le côté contrition. Alors, ces quelques repères théologiques et anthropologiques vont être volontiers énoncés comme de véritables critères éthiques objectifs par le magistère de Rome. Et là, je fais référence plutôt au texte sur la famille de Jean-Paul II, 1981, qu'on appelle « Familiaris consortio ». Les relations sexuelles sont ordonnées à la fécondité du couple. Selon Jean-Paul II, il ne peut y avoir de relations sexuelles licites en dehors du mariage, encore une fois entre un homme et une femme. Celles-ci sont ordonnées à la fécondité, c'est-à-dire pour engendrer un être humain. Et ce lien entre union et procréation, hein, ce lien entre union et procréation, invitant à la paternité responsable, hein, c'est un autre texte d'Humanae Vitae, la régulation des naissances est quand même laissée à la conscience des époux. Et ça, les catholiques ne le savent pas toujours. La régulation des naissances est toujours laissée à la conscience des époux, mais à condition d'employer des moyens licites, de contraception licite. La famille fait partie du projet de Dieu pour l'homme jusqu'à donner un sens religieux et une valeur morale aux gestes les plus concrets et les plus privés de la vie familiale ou conjugale. Et cette manière de considérer la sexualité marque de fait un profond changement par rapport à l'état antérieur dans l'Église catholique, notamment par la place qu'on laisse au corps, qui n'est pas virtuelle, mais dans la morale catholique, l'amour charnel, l'éros, a longtemps été méprisé au profit de l'agapé, qui est un amour désintéressé. et le corps était dévalorisé par rapport à l'âme, on était en dualisme et il était toujours suspect de péché. On parlait de mariage d'ailleurs dans les années 40 comme d'un remède à la concupiscence, souvent du mari, mais pas toujours. Un remède à la concupiscence, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui et on cherche à considérer la sexualité de manière plus positive. La famille constitue une vocation à part entière et non plus une sous-vocation. En fait, à travers la famille, l'homme vit un don de soi et il répond à l'amour de Dieu par l'amour. Il y trouve l'accomplissement de sa vocation, à la fois humaine et spirituelle. Mais ce qui rend possible ce don de soi, remarquons-le, a un cadre très précis, celui du sacrement du mariage. C'est quand même pas le cas de tout le monde, et une sexualité capable de s'élever jusqu'au don de la vie. Autrement dit, la sexualité n'est pas un but, elle est simplement un moyen, elle n'est pas le but de notre vie humaine, elle est simplement un moyen, elle fait partie du plan de Dieu et elle participe à son salut. Elle associe aussi l'homme à l'œuvre de la création, puisque on est appelé à engendrer la vie. Il n'y a pas lieu de sacraliser la sexualité, ce que notre société tente à faire, mais elle est certainement à sanctifier. Alors vous le voyez, c'est une vision tout à fait, peut-être un peu figée, qui est basée sur la loi naturelle, comme on dit, c'est très classique en morale catholique. Il fait référence, ce magistère, à un monde hiérarchisé. Il y a Dieu et il y a l'homme. À un monde ordonné. L'amour est compris comme la réponse de l'homme au don de Dieu et il vise la fécondité. Et surtout, cette vision du monde est finalisée, le but étant la communion avec Dieu. Cet ordre des choses fait prédominer un ordre moral objectif et non pas un ordre moral subjectif, laissé à la fantaisie de chacun. Et toutes les pratiques familiales, l'amour des conjoints, le mariage, la sexualité, l'accueil et l'éducation des enfants, sont finalisées par l'œuvre d'un Dieu créateur, un logos, et il y a une logique, un ordre logique. Il y a une morale objective, et un ordre des choses, et des invariants éthiques. Il n'est pas dans le pouvoir, dans cette vision, il n'est pas dans le pouvoir de l'homme de changer les choses, mais seulement de les vivre. Telles qu'elles sont inscrites dans l'ordre de la création, dans l'ordre du salut ou dans l'ordre de l'alliance. Le problème pastoral sera évidemment d'accompagner sur ce chemin nos contemporains qui ont au contraire une vision très personnelle et très individualisée de la sexualité et de la famille. Une vision très privée de la famille. Et ils vont nous dire, mais l'Église ne devrait pas se mêler de notre intimité à ce point. Alors j'en viens aux évolutions internes des pratiquants au regard de l'évolution générale de nos sociétés. Pour dire que bon, la famille se porte à la fois bien, trop parce qu'elle est dernier refuge dans un monde très fluide et en mutation constante, et à la fois mal parce que elle a quand même perdu toutes ses prérogatives. Avant, dans la France, jusqu'aux années 1950, la famille était un lieu de rassemblement pour le travail. On travaillait à la ferme, la France était rurale. Aujourd'hui, le travail va nous disperser, les conjoints et puis les enfants. Par rapport à la solidarité intergénérationnelle, avant, on avait besoin de la famille pour la vivre. Aujourd'hui, l'État a pris le relais, c'est bien. Dans le système des retraites, d'assurance maladie, etc. On n'a plus besoin de la famille. On n'a plus besoin non plus de la famille dans la transmission du patrimoine. On n'a plus une terre à transmettre. Ce qu'on transmet, notamment, plus moral et spirituel que matériel. Bref, on a enlevé à la famille, on pourrait dire la même chose de l'école. Avant, la famille, c'était le lieu de l'éducation. Aujourd'hui, l'école a pris le relais. Et c'est bien. Mais dans l'histoire, la famille a vu ses rôles se soustraire dans la transmission du patrimoine, dans l'éducation ou dans le travail. Et donc la famille est un peu en difficulté. La dernière évolution, c'est qu'au nom de la non-discrimination, la loi ne fait plus de différence entre les enfants nés dans le mariage et hors de mariage. Le législateur en a décidé ainsi pour ne pas faire de différence entre les enfants naturels, les enfants illégitimes et les autres en matière de filiation ou d'héritage. Très bien. Mais en s'adaptant à ces évolutions sociales, c'est vrai que le droit retire progressivement son appui à l'institution du mariage comme institution. Et sans peut-être en mesurer toutes les conséquences pour le bien commun. Le mariage n'est plus aujourd'hui nécessaire à la filiation. Et de fait, on lui a retiré l'un de ses principaux intérêts. Avec le mariage pour tous, il y a aussi, on a retiré au mariage la présomption de paternité. Vous savez qu'il y a quand même génétiquement pas mal d'enfants illégitimes. Bon, ben, jusqu'à aujourd'hui, le papa, c'était le mari de la femme. C'était une présomption de paternité. Et donc, il y a le mariage qui est érodé et la famille qui s'inquiète de l'évolution. Alors, les évêques se sont prononcés là-dessus lors du premier synode, la session extraordinaire sur la famille, en 2014. Ils disaient « Nous sommes conscients de l'orientation dominante des changements anthropologico-culturels qui font que les individus sont moins soutenus que par le passé, par les structures sociales dans leur vie affective et familiale. » Vous aurez le texte, hein, si vous voulez. D'autre part, il faut également prendre en considération le développement d'un individualisme exacerbé qui dénature les liens familiaux, faisant prévaloir l'idée d'un sujet qui se construit selon ses propres désirs, enlevant toute force aux liens existants. Alors, je vais vous donner mon avis personnel sur ce numéro 5 de la relation, donc du premier synode sur la famille. S'agissant des citoyens ouest-européens, il s'agit quand même de différencier individualisme et individuation. L'individualisme, ça signifie chacun pour soi. L'individuation signifie chacun son choix, ce qui est différent. On peut être individualisé ou individué et ne pas être individualiste. Alors les chrétiens, les catholiques surtout, vont apparaître statistiquement parmi les moins individués, les moins individualisés dans leur pratique familiale. Ils vont se marier davantage, ils vont moins divorcer, ils vont avoir moins recours à la contraception chimique, à la contraception orale. Ils vont en fait s'efforcer, au mieux, de suivre les règles de leur communauté. Et pour autant, ils sont quand même de plus en plus, comme tous les Européens et comme tous les Français en particulier, de plus en plus nombreux à être individués et à s'affranchir des lois de leur Église. Alors Pierre Bréchon, qui analyse régulièrement les valeurs des Européens, évoque un indice cumulatif de libéralisme des mœurs allant dans le sens de ce qu'on connaît tous, une plus grande autonomie et une plus grande liberté. Ce qui ne signifie pas automatiquement individualisme ou égoïsme, parce qu'en fait ces familles sont très très soucieuses des lois de la collectivité et par exemple aussi statistiquement du soin aux générations qui précèdent ou des générations qui suivent. Il y a une solidarité intergénérationnelle très importante en France, même dans les familles recomposées. Et on va avoir une grande générosité à s'occuper des beaux-parents ou des parents de conjoints ou de néo-conjoints. C'est pas rien dans la stabilité du lien social, dans l'affection, dans cette capacité de répondre à Dieu, à l'amour de Dieu par l'amour familial. Mais nos contemporains revendiquent de plus en plus de pouvoir faire ce qu'ils veulent dans leur vie privée. Ceci marque une révolution dans les opinions des valeurs européennes. Et s'agissant de catholiques pratiquants, ceux qui vont au moins à la messe une fois par mois, leur morale familiale est de plus en plus individualisée. Ils ne choisissent pas et ne veulent plus qu'on choisisse pour eux, ou de moins en moins. Un renversement des tendances est improbable. En fait, je crois que les plus traditionnels en France aujourd'hui, ce sont les musulmans, d'un point de vue familial, plus les catholiques. Nos contemporains et les catholiques comme les autres, et un peu moins que les autres, sont sensibles à une logique d'individualisation sans pour autant être tous devenus individualistes. Et d'une certaine manière, la famille est un lieu de solidarité et elle se continue à bien se porter, je pense, dans le privé comme dans le public. Je vais en venir aux points possibles d'évolution, voire des points non négociables. J'en ai encore pour combien de temps ?
À peu près 10 minutes.
Ah, d'accord. Alors, évidemment qu'en France, nous avons de nouvelles manières de faire famille, c'est-à-dire de nouvelles manières de vivre la conjugalité, la sexualité, la parentalité, et que ces manières de vivre vont ébranler des modèles familiaux plus anciens. Évidemment que les communautés chrétiennes souffrent de voir les pratiques sociales s'éloigner des valeurs de l'Évangile, vont souffrir de la solubilité du mariage. Alors, bon, il y a 47% des couples qui vont marier et qui vont divorcer, mais ça veut dire aussi qu'il y en a 53% qui vont tenir, hein. La cohabitation juvénile avant le mariage, parce que bon voilà, statistiquement ça ne rend pas plus solide un lien matrimonial. Les unions sans même envisager le mariage religieux, les couples homosexuels, en fait les prêtres et les agents pastoraux vont rencontrer de très près ces réalités en raison de leur proximité des personnes qu'ils accompagnent et à travers leur ministère. Et donc le défi humain aujourd'hui, c'est d'accompagner ces nouvelles réalités de la famille et éventuellement les souffrances sociales et individuelles qu'elles révèlent. Alors, pour les églises chrétiennes, je vais vous parler d'invariants éthiques. Alors je le dis plus positivement que vous, Tariq, là, je le dis au nom de ce que les catholiques vont appeler la loi naturelle, c'est-à-dire d'une loi qui précède toute loi. Et ce côté de la loi naturelle, il a l'avantage de la polysémie parce qu'il n'est pas simplement une loi inscrite dans la nature physique de l'homme, il est une loi de la raison pratique, à la manière du philosophe Kant, et c'est aussi une construction théologique. Parce que vous avez par exemple le texte de Pacem in Terris de Jean 23 qui va, au nom de la loi naturelle, faire ce que l'Église n'avait pas encore fait en 1962, c'est-à-dire défendre les droits de l'homme. Au nom de la loi naturelle et d'une construction théologique. Et donc, nous allons voir que si la loi naturelle est capable de figer les choses, elle est aussi capable de les réfléchir en raison pratique et de les interpréter en fonction du plan de Dieu et de l'histoire en cours de l'humanité, et pour notre sujet, pour les mutations sociales de la famille, la loi naturelle n'est pas quelque chose qui va fixer pour toujours une famille dans une image, mais aussi composer avec la culture et les pratiques sociales du temps. Alors, pour les églises chrétiennes, il est quand même difficile, dans la loi naturelle, de dissocier la famille et le mariage. C'est assez difficile de penser famille sans mariage. Contre la factualité des choses, hein, il y avait un congrès en Italie assez récemment, on a défini la famille comme au moins un parent qui vit avec au moins un enfant. Ça, c'est de la statistique. C'est la réalité. Mais on ne va pas confondre en morale catholique la facticité avec la moralité. On ne va pas laisser la situation décider de ce qu'il faut faire. On va essayer de prendre le recul. Où est le bien commun? Où est le bien du plus fragile? Où est le bien d'autrui? Et c'est la dignité de l'homme d'avoir ce recul par rapport aux statistiques. Parce que les statistiques ne nous disent rien. Et elles ne vont pas nous dire comment vivre notre vie conjugale et familiale. On peut être informé que 47% des couples divorcent, ça ne veut pas dire que moi je vais divorcer ou je vais. Il n'y a pas de déterminisme statistique. Alors, il est difficile de dissocier le mariage et la famille et de renoncer à son indissolubilité, puisque les catholiques ont même élevé le mariage à la dignité de sacrement. La question qu'on a, c'est dans ce contexte de fragilisation du lien conjugal, est-ce que c'est encore tenable? Est-ce que c'est encore tenable? D'un côté, nos normes sont présentées comme universelles, elles relèvent de la loi naturelle et donc d'invariants éthiques. Et de l'autre, nous avons des personnes à accompagner et des situations à prendre en compte. S'agissant des pratiques sociales et familiales, moi je travaille aussi beaucoup en bioéthique. Il y a un côté reconnaissable aux chrétiens et notamment aussi aux catholiques, c'est leur attachement au côté naturel de la famille. La famille, c'est une alliance de culturel et du naturel. Mais on ne peut pas dire que c'est du pur culturel, une construction sociale. Moi, je viens d'être missionnaire au Congo, j'avais des frères, je pouvais dire dans leur nom dans quel ordre ils étaient sortis du ventre de leur mère. Il n'y a pas plus culturel que de donner un nom à quelqu'un, et en même temps, je pouvais dire à leur nom s'ils étaient le troisième garçon ou s'ils étaient le deuxième garçon de leur maman. Et donc, il y a quelque chose dans la famille qui doit faire alliance entre la nature et la culture. Alors, il y a déjà des évolutions. Il est remarquable que dans ce texte très classique de Jean-Paul II, en 1981, il avait commencé par souligner les aspects positifs de l'évolution de la famille. On constate une conscience plus vive de la liberté personnelle. C'est pas rien. Une attention plus grande à la qualité des relations personnelles dans le mariage. C'est pas rien. À la promotion de la dignité de la femme, à la procréation responsable, à l'éducation des enfants. Et Amoris Laetitia et Familiaris Consortio sont d'accord sur l'obligation de bien discerner les situations et de prendre en compte, lorsqu'il y a séparation, le degré de responsabilité du sujet éthique. Autrement dit, la question que j'ai, moi, c'est qu'on va pouvoir accompagner le sujet éthique dans des situations objectives qui ne sont pas celles qui sont préconisées par le cadre du christianisme. Est-ce que cette capacité d'accompagner en face à face le couple, est-ce que nous pouvons aussi aller jusqu'à accompagner les pratiques sociales? Alors, soit vous décidez que, effectivement, ce sont les couples qui font les pratiques sociales, accompagnant le couple, l'Église accompagne aussi les pratiques sociales, soit vous allez faire le raisonnement que l'Église doit se poser la question de sa manière d'accompagner les institutions. Et notamment, s'agissant d'institutions familiales, il me semble qu'aujourd'hui, la fragilité du lien conjugal nous invite à nous préoccuper, à accompagner justement le lien de l'alliance aujourd'hui. Parce que aujourd'hui c'est plutôt l'enfant qui fait famille. Si on va divorcer du conjoint, on ne divorce jamais des enfants, mais c'est ce lien conjugal qui est peut-être en souffrance. Comment on fait pour accompagner le lien conjugal? Alors, dans Amoris Laetitia, l'exhortation post-synodale de 2016 du pape actuel, du pape François, il y a non pas une demande pour changer la norme objective, mais pour reconnaître qu'un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les valeurs comprises dans la norme. Les normes, on les a dans l'Église catholique. Aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont à fortifier pour qu'ils ne considèrent pas cette norme comme une contrainte, mais comme un appel au bonheur et à quelque chose qui construit une société et une trajectoire humaine. Et le pape dit, il peut, ça c'est quand même révolutionnaire, il peut se trouver, l'homme, dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d'agir différemment et de prendre d'autres décisions sans une nouvelle faute. Le fait de considérer qu'une personne soit capable par suite d'une mauvaise décision intérieure, de se mettre en situation de péché irréversible, hein, vous parliez des relations extra-conjugales après un premier mariage, on en est là dans l'Église catholique. Il n'y a de mariage possible qu'un mariage sacramentel. Dès lors qu'il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de relation entre les époux, on ne va pas maintenir ce mariage, mais le problème c'est qu'il n'y a plus de possibilité d'union dans un contexte de grande fragilité. Eh bien, le pape dit que le fait de considérer qu'une personne soit capable, par suite d'un mauvais choix, de se mettre dans une situation de péché irréversible, revient à lui prêter une toute-puissance dans le mal. Selon le pape François, cette position n'est pas recevable. Et toutes les notions théologiques qui, en définitive, remettent en question la toute-puissance de Dieu, et en particulier sa miséricorde, sont inadéquates. En même temps, nous n'avons pas dans l'Église actuellement c'est-à-dire que la situation particulière, et je pense qu'elle est aussi ouest européenne, hein, encore une fois, quand on voyage, quand on vit en Afrique et en Asie, on s'aperçoit que le problème de la famille, ça n'est pas de réparer les dégâts du divorce, c'est de vivre une vie de famille qui soit réussie, parce que vous avez 70% de la rue qui a moins de 20 ans. Alors on ne va pas se poser la question des divorcés remariés d'une population qui est dans l'échec. Après plusieurs décennies de vie, on se pose la question de réussir sa vie de famille. Et on pense que dans l'Église catholique, il ne s'agit pas d'ériger certaines situations particulières, et particulières aux Occidentaux, à des normes, qu'elles ne deviennent pas des normes. Donc on ne change pas la norme. Et donc on a refusé de délimiter les cas concernés pour ne pas avoir de normes d'exception à tonalité laxiste. Mais il y a une vraie volonté aujourd'hui, et on ne pourrait pas faire autrement, d'accompagner les personnes dans leur situation et jusqu'à offrir un accès au sacrement, Eucharistie et réconciliation, quand bien même ça n'était pas possible antérieurement. L'idée du pape François, c'est qu'il faut privilégier la vie de la grâce, c'est-à-dire la vie de la charité, de l'espérance et de l'amour, quelle que soit la situation donnée. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup.